Ésaïe 49, 1 à 13. Ils, écoutez-moi, prêtez l'oreille, peuplade lointaine. Dès le sein, l'Éternel m'a appelé. Dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom. Il a fait de ma bouche comme une épée tranchante. À l'ombre de sa main, il m'a caché. Il a fait de moi une flèche aiguisée. Il m'a mise en réserve dans son carquois. Et il m'a dit, « C'est toi, mon serviteur, l'Israël par qui je ferai resplendir ma gloire. » Mais moi, j'ai dit, « Je me suis fatigué pour rien. Pour un résultat nul et vain, j'ai consumé mes forces. En vérité, mon droit était auprès de l'Éternel et mon œuvre auprès de mon Dieu. » Et maintenant, dit l'Éternel, lui qui m'a façonné dès le sein pour que je sois son serviteur, pour faire revenir à lui Jacob, pour lui rassembler Israël, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Mon Dieu s'est fait ma force. Il m'a dit, c'est trop peu pour toi d'être mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour faire revenir les réchappés d'Israël. Je t'établis comme lumière des nations pour que mon salut soit présent jusqu'au bout de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise profondément, que la nation abomine aux serviteurs des gouvernants. Des rois verront et se lèveront. Des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la faveur, je te réponds. Au jour du salut, je te secours. Je te garde et je t'établis comme alliance du peuple pour relever la terre et pour restituer les héritages désolés. Pour dire aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans l'ombre des cachots, paraissez. Ils paîtront près des chemins, sur toutes les collines, ils auront des pâturages. Ils n'auront ni faim ni soif, ni le soleil ni le vent brûlant ne les frapperont. Car celui qui les prend en pitié les conduira, près des sources d'eau il les guidera. Je ferai de toute montagne un chemin. Les chaussées seront remblayées. Voici, ceux-ci arrivent de loin. Voici, ceux-ci du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays d'Assouan. Cieux, poussez des cris de joie. Terre, exulte. Éclatez, montagne, en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il prend en pitié ses malheureux. Étrange choix que celui de notre texte au sixième chapitre de la seconde aux Corinthiens pour une étude sur la vie. J'entends bien sûr la vie en laquelle nous naissons lors de la première résurrection par la connaissance du nouvel Adam, esprit vivifiant. J'entends donc la vie en Christ. Cela ressemble un peu à une gageure que d'en vouloir traiter à partir d'un passage qui ne porte qu'une seule fois le verbe « vivre ». C'est au verset 9, vous l'avez remarqué, je pense, dans l'heure qui a précédé, c'est au verset 9, le « voici, nous vivons » de l'apôtre Paul. Seul fragment du texte où le mot « vivre » se trouve. Cependant, cette affirmation est en bonne place dans ce verset et elle peut bien prétendre résumer toute la grande tirade, la grande envolée de l'apôtre dont elle est un point culminant. Et elle est lourde de sens, venant comme elle le fait dans le prolongement du « un seul est mort pour tous, tous donc sont morts » que nous avons médité dans la précédente étude. Et j'ose affirmer que c'est bien vivre, hein, que ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, selon l'expression qu'on trouve au premier verset, en ce temps marqué par la faveur divine qui est le nôtre. Ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne vais pas tenter de discuter longuement, je vous dis ma conclusion. Ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, c'est porter le fruit, la pleine mesure du fruit que la grâce fait porter, c'est-à-dire, au lieu de vivoter, vivre. Le thème du temps favorable, que l'on trouve au verset 2, du jour du salut, l'apôtre Paul l'emprunte au second chant du serviteur, à la prophétie que j'ai lue pour cette raison, du chapitre 49 d'Ésaïe. Au temps de la faveur, je te réponds, je t'exauce, au jour du salut, je te secours. Il s'agit, si nous plaçons donc la parole dans son contexte en Ésaïe, de l'ère nouvelle qu'inaugure l'humiliation du serviteur. Ce serviteur sera rejeté par sa nation même, abominé par sa nation, opprimé par les gouvernants. Voilà la prophétie du verset qui précède. Mais Dieu le secourra et Dieu lui donnera ainsi un ministère en faveur non seulement du reste d'Israël, des réchappés d'Israël, c'est-à-dire des croyants au sein de l'Israël selon la chair, mais aussi auprès des païens, pour que son salut aille jusqu'au bout de la terre. C'est déjà la souffrance qui est décrite plus en détail au chapitre 53 avec son fruit qui est annoncé. L'exaucement qui est en cause dans le passage d'Ésaïe, cité par l'apôtre Paul, cet exaucement, c'est celui dont il est aussi question dans l'épître aux Hébreux, lorsqu'il nous est dit que notre Seigneur Jésus, dans les jours de sa chair, a fait monter vers Dieu avec clameur et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qu'il a été exaucé à cause de sa crainte de Dieu. C'est au chapitre 5 de l'épître aux Hébreux, au verset 17, que nous avons cette parole un peu étonnante. Quand Jésus a-t-il été exaucé par celui qui pouvait le sauver de la mort? Il me semble que la réponse la plus simple, c'est de dire qu'il a été exaucé le troisième jour. Lorsque la tombe a été contrainte de libérer celui qui est devenu le prince de la vie. Il s'agit de la résurrection, de laquelle nous avons parlé hier, qui ouvre l'ère nouvelle, l'ère de la faveur divine, le jour du salut. Alors pourquoi Paul fait-il cette incise au chapitre 6 de la seconde aux Corinthiens? Pourquoi glisse-t-il ce verset 2? Je crois que c'est pour nous faire comprendre le sens du temps dans lequel nous vivons et par conséquent le sens de la vie qui nous y est donnée. Ce n'est pas seulement l'époque où il est possible, grâce à la mort de l'unique fait péché pour nous, où il est possible de recevoir la grâce, le salut, mais aussi le temps dans lequel cette grâce doit porter du fruit et où il s'agit de ne pas la recevoir en vain. Quel fruit? Celui d'une vie de service à l'image de celle du serviteur de l'Éternel. Il me semble plus que plausible que Paul ait pensé à l'association des disciples au ministère du serviteur Jésus. J'en donnerai au moins deux raisons. Au chapitre 49 d'Ésaïe, donc dans la citation, dans le texte qui est cité, Dieu annonce au serviteur qu'il sera lumière des nations. Mais comment le serviteur Jésus est-il lumière des nations concrètement? Il a dit lui-même à propos de son ministère terrestre qu'il n'était venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est par le truchement de ses envoyés que le serviteur Jésus devient effectivement la lumière des nations et que le salut atteint jusqu'au bout de la terre. Et l'apôtre Paul l'a bien compris ainsi, puisque dans le livre des Actes, au chapitre 13 et au verset 47, nous le voyons expliquer dans lors d'une de ses campagnes d'évangélisation à Antioche de Pisidie, que puisque les juifs dans leur majorité refusent le message, ils se tournent vers les païens, selon le commandement du Seigneur que l'on trouve en Ésaïe 49. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut atteigne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'apôtre Paul a appliqué à son ministère d'apôtre des païens la parole sur le serviteur de l'Éternel en Ésaïe 49, 6. Preuve que le serviteur de l'Éternel accomplit ce ministère par le moyen de ses serviteurs à lui, qui lui sont donc associés. Et la pensée de l'association, elle est présente et très, très expressément dans le texte de la seconde aux Corinthiens, puisque le chapitre commence par le mot « collaborant », donc étant coopérateur, étant associé dans le même travail, nous vous exhortons. Quel type d'association ? Eh bien, les versets précédents nous le montrent bien. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour le Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Le ministère de la réconciliation est une association à celui du serviteur et il permet au salut d'atteindre jusqu'au bout de la terre. C'est dans cette perspective que l'apôtre brosse le tableau de sa vie en Christ, vie des serviteurs qui suivent le serviteur. Alors quelqu'un pensera peut-être, c'est la vie de l'apôtre, et nous n'avons pas le droit de généraliser pour parler de la vie sans autre précision. Certes, je ne voudrais aucunement minimiser la différence des vocations individuelles, ni surtout le privilège de l'office apostolique. Nous ne sommes pas tous des apôtres. Les apôtres ont un rôle de fondation unique, une fois pour toutes, bien attesté dans le Nouveau Testament. Mais comme aux Corinthiens, au même Corinthiens toujours, Paul a lancé au chapitre 11, premier verset, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même du Christ », je crois que nous ne risquons pas de nous égarer beaucoup si nous nous appliquons ce qu'il écrit de sa vie. C'est bien de la vie, avec quelques différences mineures dans l'ordre extérieur des choses peut-être seulement, mais essentiellement c'est bien de la vie qui nous est à nous aussi proposée, qu'il est question dans le passage aux Corinthiens. Je pense qu'on peut résumer ce que l'apôtre nous apprend à propos de la vie en Christ, dans ce texte, en deux brèves propositions. Je fais un jeu de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots dans la Bible, alors je ne me sens pas coupable de jouer sur les mots. Il me semble qu'on peut dire que selon ce texte, la vie en Christ est une survie. C'est survivre que vivre en Christ. Et deuxièmement, d'après ce texte, la vie en Christ est une trait d'union, vie. Vie supérieure, super vie, si vous voulez. Vous voyez les deux propositions qui résument ce que je retire pour ma part de ce texte que je vais vous présenter. Survie et survie. Ce que suggère le langage de l'apôtre, c'est que la vie qu'il mène est une vie de moribond. Il le dit au verset 9. Nous vivons, mais juste avant, il dit « mourons, moribonds ». Les malheurs le bombardent, les privations l'épuisent, mais il s'émerveille de survivre. Voilà une bonne part de la signification de tout son discours. En versets 4 et 5, vous vous en êtes bien rendu compte, il y a une énumération qu'on pourrait trouver démoralisante de toutes les choses qui font de la vie de l'apôtre, d'abord, une endurance. C'est le premier terme qu'il emploie. Les traducteurs en choisissent parfois d'autres pour rendre l'original. Patience, constance. Le terme grec, d'après sa construction, signifie demeurer dessous, tout ce qui tombe, et que les versets suivants précisent. Rester dessous. Au fond, je trouve que le terme français qui correspond le mieux, c'est celui d'endurance. La vie en Christ, d'après ce que Paul nous en dit ici, c'est une vie où l'on endure. Paul, qui ne semble pas avoir fait de plan préalable dans la composition de ce texte, mais qui se laisse conduire par les enchaînements spontanés des mots et des idées, commence à ce propos par des termes assez généraux. Les afflictions, les nécessités, les détresses. Puis après cela, il précise quelques-unes de ces afflictions par lesquelles il a dû passer, les coups, les prisons, les émeutes. Et puis il passe aux peines et privations librement assumées. Trois termes encore, les travaux pénibles, coller des affiches sur tout le campus pour les voir déchirer dans l'air qui suit et bien peu de monde à la réunion, les nuits sans sommeil, et pas seulement à cause du volleyball. Les jeûnes, non pas comme exercice de piété, mais comme carence alimentaire, comme problème de celui qui doit se serrer la ceinture. Voilà ce que Paul évoque ici. Et il me semble qu'on pourrait frapper cette formule, vivre en Christ, d'après ces paroles-là, c'est avoir la vie dure, dans les deux sens de l'expression. Vivre en Christ, avoir la vie dure. Et la confirmation que c'est bien un message qui compte pour Paul, c'est un texte tout proche, dans la même seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4. L'idée de survie que je vous propose s'y trouve encore plus précisément ciselée par des jeux sur les mots que Paul lui-même fait au chapitre 4, les versets 7 à 10. Il parle du trésor de l'Évangile dont il est porteur et il dit, 2 Corinthiens 4, 7, « Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour qu'on voit bien que cette extraordinaire puissance appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas écrasés, ne sachant qu'espérer, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non annihilés. Nous portons partout et toujours dans notre corps les souffrances de la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. » Et par ces paires de termes qu'il emploie là, il souligne l'idée de survie. Il y a peut-être aussi un épisode qu'il a vécu, qui est dans sa mémoire à ce moment-là, au chapitre 14 du livre des Actes, au verset 19, on nous rapporte, Luc nous rapporte, que lorsque l'apôtre évangélisait la ville d'Iconium, des Juifs ont réussi à fomenter une sorte d'émeute contre lui et qu'il s'est fait lapider. Et à tel point que ses persécuteurs ont cru régler son compte. Il est resté sur le carreau, il le tenait pour mort. Mais il a survécu. Il s'est relevé par une force extraordinaire et finalement, le lendemain, il a repris sa route. Survivant. Voilà ce qu'a été l'apôtre Paul bien souvent. Alors pourquoi cette étonnante anti-publicité pour la vie? Nous sommes loin du club méditerranéen, mais nous sommes loin aussi de toute litanie de géniardise, car Paul ne se plaint pas en tout cela. Il est clair, me semble-t-il, qu'il veut combattre un mauvais triomphalisme chrétien. Je pourrais peut-être dire un triomphalisme évangélique. Dans la première aux Corinthiens, et nous restons toujours dans ces épîtres aux Corinthiens, elles sont suffisamment riches, pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin. Dans la première épître, nous le voyons lancer une apostrophe ironique à ces mêmes hommes au chapitre 4, versets 8 à 10. Il leur dit, et vous allez sentir à quel point c'est cinglant, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous vous êtes enrichis, sans nous vous êtes devenus rois. » Et que ne l'êtes-vous donc, roi, pour que nous partagions nous aussi votre royauté? Car Dieu, ce me semble, nous a, nous les apôtres, exhibés au dernier rang, tels des condamnés à mort. Oui, nous avons été livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous, à cause du Christ. Et vous, vous êtes prudents dans le Christ. Nous sommes faibles. Et vous, vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur. Et nous, dans le mépris. Les chrétiens de Corinthe, apparemment, avaient choisi de s'installer douillettement dans leur siècle, comme si le temps du règne visible était déjà là, comme si la résurrection était déjà arrivée. Et croyez-vous que la tentation était seulement une tentation du premier siècle? Au verset 9, une autre précision nous est donnée quant au sens de cette face noire, négative, de la vie en Christ. Citant le psaume 118, verset 18, Paul dit « Nous sommes comme châtiés, mais non mis à mort. » Le psaume 118 dit « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas fait mourir. » Châtié, ça peut se traduire aussi « éduqué », le terme, c'est le terme « paideo » que vous connaissez, qui est utilisé dans certains mots français. Que signifie cette précision ? Châtié, mais non pas mis à mort. Je crois qu'elle indique que la pression des épreuves fait partie de la pédagogie divine à notre endroit. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Ça veut dire d'abord qu'il ne s'agit pas de punition, mais de correction, d'éducation. Il ne s'agit pas, dans l'intention divine, de nous écraser ou de nous laisser écraser. C'est là l'assurance que nous pouvons avoir. La main du Père, en quelque sorte, retient celle de l'esclave fouettard chargé d'administrer la correction. Ça n'ira pas plus loin. D'où le sens de survie. L'apôtre Paul nous donne, d'autre part, dans toujours cette même épître aux Corinthiens, une illustration de ce que cela implique lorsqu'il parle au chapitre 12 de l'écharde dans sa chair. Une souffrance à coup sûr. Trois fois il a demandé au Seigneur de l'éloigner de lui, mais le Seigneur a dit non. Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Et pourquoi cette écharde? L'apôtre Paul dit très clairement que c'est une mesure de prévention de l'orgueil, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de l'excellence des révélations qu'il a reçues. Donc une mesure pédagogique. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, nous avertit que si nous n'avons pas part à cette correction, nous sommes des bâtards et non des fils. Car l'Éternel ainsi éduque ceux qu'il tient pour ses enfants légitimes. Alors bien sûr, ce n'est pas très agréable à dire, c'est encore moins agréable à subir. Mais nous ferions mieux de faire confiance à notre Père, sans illusion sur les agréments extérieurs de son école. Nous ferions mieux, je crois, de considérer d'un autre œil les pépins qui nous arrivent. Trop souvent, ils nous révoltent ou nous découragent. Alors que nous devons, me semble-t-il, adopter la perspective de l'apôtre Paul. Corriger, mais non mis à mort, car ce n'est pas notre mort, mais notre vie que veut le Seigneur. Dans notre passage de la seconde Corinthiens, chapitre 6, je ne trouve pas d'autres éléments à commenter à propos de l'aspect survie. Mais dans le texte apparenté que j'ai lu il y a quelques instants, du chapitre 4, il y a un autre élément que je crois nécessaire de mettre en valeur. L'apôtre souligne que les assauts subis dont nous survivons à peine sont comme une opération de la mort du Christ en notre chair. Il emploie, ce qui était traduit dans la version que j'ai lue tout à l'heure, les souffrances de la mort du Christ, il emploie un mot, nécrosis, qui pourrait se traduire, enfin plutôt se transcrire en français, nécrose. Nous portons la nécrose de Jésus. Ces difficultés qui nous assaillent sont comme la nécrose de Jésus qui nous conforme à lui. Communion de ses souffrances, dit-il dans l'Épître aux Philippiens. Et cela fait partie, je crois, des raisons principales de la nécessité d'endurer. Paul aimait à y insister. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 17, il parle des cicatrices que lui ont laissé tous les coups reçus, et il les appelle les marques de Jésus. Je porte les marques de Jésus. Aux Colossiens, dans le premier chapitre, verset 24, il parle des souffrances qu'il subit à cause du ministère, toujours un peu le même sujet, et ils disent qu'elle comble ce qui manque aux souffrances du Christ. Alors il ne manque rien aux souffrances du Christ, considérées comme le sacrifice de culpabilité, qui a expié pour nos fautes une fois pour toutes. Mais selon l'association du serviteur, des serviteurs de second rang qui le suivent, dans le ministère de la réconciliation, il y a comme un prolongement des souffrances du Christ, dont nous avons une part à prendre pour que son salut aille jusqu'au bout de la terre. Et c'est de cela qu'il est question, me semble-t-il, ici. Un aspect de la vie en Christ comme survie. Et alors, si on souligne que c'est la nécrose de Jésus, cela implique que c'est la vie de Jésus qui se manifeste simultanément comme survie. Et du coup, on quitte le thème de la simple survie pour atteindre le deuxième, celui de la supervie, de la vie d'une autre qualité. S'il s'agissait seulement d'une force donnée pour tenir le coup, je ne crois pas que nous sentirions l'élan, l'allégresse qu'il y a dans ce passage. La vie en Christ, qui se manifeste comme endurance miraculeuse, c'est aussi une autre vie, une vie supérieure. Il y a un petit fait de vocabulaire qui peut intéresser spécialement les hellénistes parmi vous, que je cite, je l'ai trouvé dans le livre sur les synonymes du Nouveau Testament de l'archevêque Trench. Il y a en grec deux mots pour vie, enfin il y en aurait même encore un autre, mais il y a Zoé, dont nous avons parfois fait un prénom, et le mot bios. Pour la vie dans ses modalités intellectuelles, pour la vie, disons, spirituelle, c'est plutôt bios que les Grecs auraient employé. Car la vie, en tant que modelée par les décisions de l'homme, en tant que raffinée par sa culture, etc., c'est plutôt bios. Ce que nous avons encore retenu en parlant de biographie. Curieusement, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le mot bios qui est employé pour la vie qui est communiquée par Dieu, la vie en Christ, mais c'est le mot zoé qui est celui qui désigne plutôt la vie de tout organisme vivant, animal même, en face de l'inanimé, du règne minéral. Zoé qui a donné zoologie. C'est curieux que ce soit plutôt le mot zoé qui ait été choisi que le mot bios. Et quelle est la raison? La raison, c'est que le Nouveau Testament a voulu faire apparaître que cette vie est une vie autre, radicalement autre, pas un raffinement de la vie naturelle, mais quelque chose d'aussi différent de cette vie naturelle que la vie d'un être vivant est différente de l'inertie d'une pierre. C'est intéressant de noter cela. La qualité autre de cette survie, l'apôtre l'expose après avoir parlé de la série de ses épreuves au verset 6 et encore au début du verset 7. On pourrait suivre le cheminement de sa pensée, je ne vais pas commenter longuement. Il parle d'abord de la pureté. Pureté, pourquoi d'abord la pureté? Eh bien, peut-être pour montrer qu'il ne cède pas au compromis, malgré les pressions. Puis il parle de la connaissance. En connaissance, dit-il, comme pour souligner quel est le plan de cette vie nouvelle. Puis il arrive à la longanimité. Le terme, nous ne l'employons plus très très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est longanime, c'est celui qui se contient longtemps. On pourrait dire qu'il réagit très cool. Voilà le longanime. Et puis la qualité suivante, on pourrait traduire serviabilité. On aimait donner comme nom aux esclaves l'adjectif qui correspond au substantif utilisé ici. La serviabilité. En quoi est-ce que c'est la démonstration de la qualité autre de la vie en Christ. Je crois que c'est parce que cela atteste aussi bien la longanimité que la serviabilité, la maîtrise au-dessus des circonstances de celui qui n'est pas déterminé par ce qui lui arrive du dehors. Et puis après cela, alors c'est un sommet dans la série de Paul, il parle du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Je crois comme la source de toutes ces qualifications qu'il évoque, la vie, survie, c'est la vie que communique le Saint-Esprit. Certains traducteurs ont hésité, n'ont pas mis la majuscule, mais avec la Tobe, avec la Bible à la colombe, avec une majorité de commentateurs, je crois que l'association de l'adjectif saint au mot esprit est tellement régulière, toujours pour le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, qu'il faut aussi s'y comprendre comme ça. C'est par le Saint-Esprit, comme source, que cette vie se démontre autre, survie. Et ce qui n'a pas été compris par ceux qui ont mis une minuscule, c'est que les trois clauses qui suivent donc, sont liées à celles que nous avons ici, par le Saint-Esprit. Les trois clauses qui suivent me semblent nous expliquer ce que signifie concrètement par le Saint-Esprit. Il y a trois termes qui sont caractéristiques dans tout le reste du Nouveau Testament de ce que fait le Saint-Esprit. Amour sans hypocrisie. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit Romains 5. Le fruit de l'Esprit, c'est d'abord l'amour, dit Galates 5. Le Saint-Esprit se manifeste d'abord comme amour. Et puis alors que Paul soit obligé d'ajouter « sans hypocrisie », ça c'est humiliant. Écrivant à des chrétiens, il est obligé de préciser l'amour sans hypocrisie. Deuxièmement, la parole de vérité. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, dit Éphésiens 6. C'est par la parole que l'Esprit a choisi d'agir. Et c'est pourquoi la parole est ici mentionnée, en second lieu, me semble-t-il. Et puis troisièmement, par la puissance de Dieu. La connotation du mot esprit, je l'ai expliqué hier, est une connotation dynamique. Et Jésus a par exemple promis à ses disciples, au premier chapitre des Actes, que le Saint-Esprit survenant sur eux, ils recevraient une puissance. La puissance de Dieu, c'est, je dirais, la troisième grande chose qu'il faut rappeler lorsque l'on dit « par le Saint-Esprit ». Donc là, la vie en Christ, décrite ici, c'est une vie par le Saint-Esprit, vie d'amour, vraie, vie qui est dominée par la parole et par la propagation de la parole et qui est portée par la puissance de Dieu. Alors, ayant parlé de la puissance de Dieu, il en vient à envisager les moyens, les armes du combat pour lequel nous sommes rendus forts. Et c'est ainsi qu'il parle des armes de la justice, de droite et de gauche, littéralement. Alors comme l'arme que l'on prend dans la main droite, c'est l'épée, et que dans la main gauche, on prend le bouclier, beaucoup de commentateurs pensent que ça veut dire les armes offensives et défensives de la justice. Paul aimait bien cette métaphore de l'armure, vous savez qu'il l'a développée en divers endroits, en particulier au chapitre 6 aux Éphésiens. Et puis, vous voyez toujours comme sa pensée continue de glisser. Ayant parlé des armes de droite et de gauche, il a fait surgir dans son esprit la pensée de la symétrie. Et à partir de ce moment-là, alors, il emploie des paires de termes contrastés qui font de la vie en Christ, qui décrivent la vie en Christ comme une vie paradoxale. C'est toute la portée de ce que l'on a à partir du verset 8 jusqu'à la fin de notre passage. Alors il s'agit, dans ces paradoxes, des alternances, des choses que le disciple de Jésus-Christ, comme lui, connaît alternativement au cours de sa vie. Aux Philippiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul disait « J'ai appris à vivre dans l'abondance ou dans la disette. » De temps en temps, ça va bien. Il y a des dons, etc. À d'autres moments, c'est ce jeûne dont il est question ici, au verset 5. Ce sens me semble le sens qu'il faut retenir pour la formule avec la bonne réputation et la mauvaise réputation, ou plutôt dans l'ordre inverse. Là, il s'agit de l'accueil fait par les hommes. L'apôtre Paul est décrit comme un propagateur d'hérésie par certains, par d'autres. Il est salué comme un véritable héros de la vérité, et donc il a une bonne réputation. C'est peut-être aussi, dans le même sens, qu'il faut prendre imposteur et pourtant véridique des attitudes à son égard qu'il rencontre chez les uns et chez les autres, en même temps ou à des moments différents. Mais cependant, je ne crois pas qu'il s'agisse seulement de ces alternances qui marquent la vie du disciple. Dans la citation du psaume 18, à la fin du verset 9, donc il s'agit d'autre chose, il s'agit de deux aspects qui coexistent, et la référence n'est pas aux hommes, mais plutôt à Dieu. Châtié, mais non mis à mort, par qui ? Par Dieu. Cela est assez évident, puisque dans le psaume 118 qui est cité, il est dit clairement, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas mis à mort. Nous avons ici ce que les grammairiens, les exégètes appellent le passif divin. Dans un certain nombre de passages du Nouveau Testament, par pudeur, en quelque sorte, le nom de Dieu n'est pas mentionné, il y a une tournure passive, mais il faut comprendre que l'agent de l'action en cause, c'est Dieu. Par exemple, la parole de Jésus, frappez et il vous sera ouvert. Il vous sera ouvert par qui ? Par Dieu. C'est le passif divin. Une certaine discrétion ne nomme pas Dieu, mais tout le monde doit comprendre. Et dans la série des choses que l'apôtre Paul nous livre ici, je crois qu'il faut comprendre souvent le passif divin et la relation à Dieu d'abord. Par exemple, quand il dit comme gens obscurs, gens ignorés, comme ignorés et pourtant bien connus ou plutôt reconnus, je crois qu'il ne veut pas dire reconnus par des hommes ici et là, pas l'exclure, mais je pense que ça veut surtout dire reconnus par Dieu. Alors que dans le monde, nous sommes des gens qui ne comptent pas, tout à fait ignorés, nous sommes bien connus de Dieu et c'est ça ce qui compte. Être connu de lui. Il y a dans ces passages essentiellement un contraste entre l'opinion des hommes et plus que cela encore, l'apparence terrestre, une certaine réalité terrestre, parce que l'apparence terrestre n'est pas sans épaisseur. Oui, lorsque l'apôtre dit « pauvre, n'ayant rien », c'est une réalité économique. La réalité des économiquement faibles qu'ont été les apôtres du Nouveau Testament. Il y a un contraste entre cette réalité et puis l'autre face qui fait de la vie en Christ une vie qualitativement différente. La vie en Christ est tellement autre qu'elle se manifeste dans ce monde sous les espèces du deuil. Il dit attristé, mais affligé, mais c'est un mot qui évoque même le deuil. Et se réjouissant toujours, sous les espèces du deuil, de l'indigence, de l'insignifiance, voire de l'imposture des trafiquants d'opium du peuple. Voilà comment se manifeste, à cause de son altérité dans ce monde, la vie en Christ. Elle est en vérité une vie dans la connaissance, dans la gloire, dans la joie, dans la possession d'avance et déjà de l'univers, possédant tout. Mais dans ce monde, elle se manifeste de cette manière antithétique. Alors quelle est la raison de ces antithèses ? Inéluctablement attaché à la vie en Christ. Je crois qu'on doit dire que c'est la non-vérité du monde dans sa prétention à constituer l'horizon de la vie, la référence dernière de la pensée. Lorsque le monde se prétend l'ultime norme, l'horizon à partir duquel tout se définit, alors, l'antithèse surgit inéluctablement. L'antithèse atteste Dieu comme l'instance qui révoque l'orgueil du visible. Que Dieu soit vrai, dit l'apôtre Paul, une traduction dit souvent « soit reconnu pour vrai », mais même littéralement, c'est que Dieu soit véridique, que Dieu soit vrai, et tout homme menteur. Romains 3, verset 4. L'antithèse est inéluctable. Pour que l'instance du jugement divin s'atteste. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. Ou encore, plus près de notre texte, nous revenons à la seconde aux Corinthiens, par la foi et non par la vue. nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour ça qu'il y a toutes ces antithèses. Vous connaissez le slogan « La vue, c'est la vie ». Eh bien, je crois que nous devons le déclarer menteur et Dieu seul véridique si nous suivons la logique du texte de l'apôtre Paul, ou alors il faut dire que si la vue, c'est la vie, la foi, c'est la survie, au sens que je vous ai proposé. C'est l'opposition entre un monde qui se prétend l'ultime et le Dieu qui se montre et se déclare en Jésus-Christ, qui implique toutes ces antithèses. C'est la vérité de la croix, au fond. La croix par laquelle le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié au monde, d'après Galates 6. Ou selon les paroles du cantique qui a été, du chant qui a été chanté juste avant, notre vie est lumière à l'ombre de la croix. Oui, l'antithèse paradoxale, notre vie est lumière à l'ombre de la croix. Mais alors il faut faire attention. Si nous nous contentions de cette série de thèses bibliques que je viens de rapporter, nous aurions l'air de cautionner un simple dualisme de Dieu et du monde. Dualisme que j'ai dénoncé l'autre soir comme gnostique. Il importe de relever, dans notre passage même et ailleurs, que Paul ne recommande à aucun moment un ascétisme qui retirerait du monde, un dolorisme qui priserait les privations et les douleurs pour elles-mêmes. Vous ne trouvez pas ça du tout ici. Il accepte les peines qui lui sont imposées par l'hostilité des pécheurs, mais il n'en recherche aucune. Remarquez bien dans ce passage. Il a aussi appris, comme il dit dans Philippiens 4, à vivre dans l'abondance. Ce n'est pas un vœu de pauvreté qui lui ferait refuser systématiquement les apports et les plaisirs de la vie. Non, nullement. Il apprécie dans ce passage la bonne réputation, quand on veut bien lui faire une bonne réputation. Il l'apprécie tout en supportant la mauvaise. Et il proclame, c'est là le point que je veux surtout relever, nous qui n'avons rien, nous possédons tout. Nous possédons tout. Vous remarquez, il ne dit pas nous possédons les vrais biens, mais finalement les biens d'ici-bas ne comptent pas à nos yeux. Il ne dit pas ça. Il ne fait pas un contraste entre les vrais biens et puis le monde. Il dit nous possédons tout. Et si vous avez un doute quant à la portée de ce tout, eh bien je reviens encore à ce même texte que j'ai déjà plusieurs fois cité, tout est à vous. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 21 et 22, tout est à vous, dit-il, et il explique. Tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. C'est le monde, les choses présentes déjà, dont il dit qu'il y a possession. Vous voyez, ça nous écarte radicalement de ce dualisme gnostique. Dieu et la matière sont opposés, Dieu et le monde comme tel. Ce n'est pas le monde comme réalité, c'est le monde comme système de la rébellion et de la corruption contre lequel Dieu est l'instance critique qui est obligée de renverser. Dieu récuse les prétentions orgueilleuses du monde, mais il reste le Seigneur du monde. C'est ce monde même qui sera le théâtre de son dévoilement royal à la fin. Et c'est dans ce monde que déjà il dispose les signes de sa souveraineté. C'est dans ce monde, nous l'avons vu hier, qu'il a agi de façon décisive pour introduire les prémices de son règne, la résurrection de l'homme que nous voulons suivre. Vous voyez la différence. Et c'est ce qui, me semble-t-il, explique que la survie se manifeste comme survie, que la vie du Saint-Esprit se signale dans ce monde avec discrétion, mais persévérance, et finalement éloquente clarté, comme cette endurance miraculeuse que rien du monde ne peut expliquer. Il faut que ça se passe dans ce monde, parce que ce n'est pas le monde en tant que réalité, c'est le monde en tant que système de péché qui est condamné. Je ne te prie pas de les ôter du monde, dit Jésus dans sa prière au Père en Jean 17, mais de les préserver du mal. C'est au fond cela qui est en cause et qui implique que la vie en Christ ait ce caractère d'endurance et de survie, terrassée mais non annihilée, allant toujours plus loin dans l'obéissance. Et si c'est ce qui explique que survie et survie aillent ensemble, je crois que c'est ce qui nous permet aussi finalement de laisser tomber les préfixes et de dire « la survie, c'est la vie digne de ce nom ». C'est parce que le monde appartient au Seigneur qu'il ne peut être que faussement fermé, qu'il ne peut qu'en s'illusionnant croire qu'il boucle la boucle, qu'il peut constituer un cercle total. Mais l'homme est incapable d'effacer de son être la flèche qui oriente vers Dieu. L'homme est incapable de supprimer la référence à cet au-delà du monde qui est le Seigneur du monde. Ce qui veut dire que lorsque l'homme ne se rapporte plus qu'au monde et le prend pour son seul horizon, ce qui est la préoccupation, la pensée, l'affection de la chair, selon l'expression de Romains 8:6, c'est la mort. C'est la mort de l'homme, il se suicide. Étant fait pour Dieu, lorsqu'il se rapporte au monde seul, ce qui est l'affection, la pensée de la chair, c'est la mort. L'antithèse, alors, ce ne peut être que la vie. L'homme étouffe dans ce monde artificiellement refermé, il y agonise comme une prison, mais la parole, le Verbe qui fait la brèche, celui qui est devenu le serviteur de l'Éternel pour dire aux prisonniers « sortez », à ceux qui sont détenus dans l'ombre des cachots « paraissez », cette parole créatrice en qui était la vie des hommes, oui, c'est elle qui est devenue chair, pleine de grâce et de vérité, et notre vie. Voilà, je crois, ce que nous pouvons conclure de l'étude de ce passage.
Les armes offensives et défensives de la justice.
Oui, la question porte sur la notion de justice, puisque j'ai expliqué que la traduction offensive et défensive est déjà une interprétation, que littéralement il est question des armes de la droite et de la gauche. Certains commentateurs refusent de penser qu'il s'agisse spécifiquement de l'épée et du bouclier, mais j'ai suivi l'avis d'une majorité. La justice, je ne pense pas que je puisse déterminer avec beaucoup de précision le sens que Paul donne à ce terme dans ce passage. Et ce qu'il faut que je souligne, c'est que la notion a un champ de sens beaucoup plus large dans la Bible que dans notre langage courant. La justice, c'est ce qui instaure et restaure l'harmonie, l'ordre, la paix. La notion d'ordre est très présente, celle de norme aussi, il ne faudrait pas l'effacer, mais nous sommes quand même bien au-delà de la notion étroitement juridique, légale, de la justice romaine. Le mot justice est très souvent en parallèle dans le synonymisme de la poésie hébraïque avec miséricorde, grâce. Parfois avec jugement, oui, mais il y a tous ces aspects ensemble. La justice de Dieu, c'est ce qui restaure l'harmonie. Et c'est ce qui caractérise le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, dit la parole du sermon sur la montagne que vous connaissez bien. Donc les armes offensives et défensives de la justice, je prendrai cela comme les armes pour l'avancement du royaume, du règne de Dieu. Concernant la notion de vie, telle que le terme « zoé » dans le grec du Nouveau Testament l'exprime, j'ai mis en valeur le contraste avec la non-vie de l'inanimé. La question est la suivante, peut-on aussi voir un contraste avec la mort spirituelle, en pensant spécialement au chapitre 37 d'Ézéchiel? Alors je réponds oui, je crois que c'est possible aussi. Si je n'ai pas fait état de ce contraste-là, C'est d'une part parce qu'il me paraissait relativement plus évident que l'autre, et d'autre part parce que je pense qu'en grec, le mot bios aurait pu servir aussi. Je ne suis peut-être pas très sûr de ce point-là. Je ne suis pas un helléniste qui puisse trancher sur un pareil point, mais il me semble. Alors que pour le contraste avec l'inanimé, c'est vraiment Zoé qui semblait devoir s'imposer.
Alors, je résume les questions. D'abord, le terme de survie, dit notre ami, ne lui plaît pas parce qu'il a un sens dualiste et gnostique. Et la seconde question, c'est que tout homme, chrétien ou non, a sa part de souffrance. Faut-il donc distinguer entre ces souffrances inhérentes à la condition humaine et les souffrances propres à la vie de chrétien ?
En ce qui concerne le premier point, je dirais que je partage le souci de notre hôte distingué des Pays-Bas, et que si j'ai employé le terme de survie, je n'ai pas voulu lui donner un sens strict, c'est pour les besoins de la communication, pour frapper davantage, pour ramasser le message de notre texte et jouer sur les mots que je l'ai employé, mais j'ai voulu justement aboutir à une suppression des préfixes tout à la fin pour ne pas donner l'impression que j'adoptais comme concept clé celui de super-vie. Je vais expliciter la raison même qui est, je crois, dans l'esprit de celui qui a parlé. Lorsqu'on a l'idée que la vie communiquée par le Christ est une vie qui se situe en quelque sorte à un autre niveau que la vie naturelle, on suppose que le problème est au fond un problème d'échelle de l'être. Qu'en bas, c'est pas très beau, et qu'il faut monter plus haut. Et ça, c'est là. C'est une pensée typiquement grecque. C'est pas la pensée biblique. Le problème n'est pas celui d'un certain degré dans l'échelle des êtres. Dieu les a tous créés bons, chacun à son degré de l'échelle. Le problème, c'est celui du péché qui a corrompu la réalité bonne de Dieu. Donc, je suis vraiment, je crois, très, très d'accord, mais je ne pense pas que la manière que j'ai présenté les choses, en tout cas, je l'espère, et maintenant, avec la précision supplémentaire, les choses se corrigent. Je ne pense pas que l'usage de ce terme, si vous voulez, vous pouvez le mettre entre guillemets, ait réellement pu faire dévier votre doctrine. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, c'est un problème beaucoup plus délicat. D'une part, il me semble que l'on peut rattacher aux souffrances pour l'amour de Jésus-Christ, aux souffrances du ministère, toutes les souffrances que les chrétiens ont à subir, comme les autres hommes, maladies, etc., peste, famine. Pourquoi ? Pourquoi peut-on les rattacher ? Eh bien, parce que le maintien de notre solidarité avec les autres hommes dans la misère, conséquence de la chute, ce maintien-là ne se comprend que parce que nous devons rester sur terre pour le ministère de la réconciliation. Dieu n'aurait en quelque sorte aucune raison de ne pas nous faire monter tout de suite au ciel, sans problème, s'il n'y avait pas ce ministère de la réconciliation à accomplir. Donc, si nous restons sur terre avec tout ce que ça va impliquer de souffrances ordinaires, disons, c'est aussi pour le ministère. Donc, de cette manière, on peut rattacher. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis qu'il y a complexité, je crois qu'il y a un gros danger de présenter toutes les souffrances comme des souffrances pour le nom de Jésus-Christ. Et j'avoue avoir été frappé, et dans le bon sens, par une thèse que John Yoder, mentionné tout à l'heure, souligne avec vigueur. Je ne suis pas d'accord avec M. Yoder sur un certain nombre de points, mais sur cette thèse-là m'a frappé. Qu'on a utilisé beaucoup trop facilement l'idée de la croix que chacun a apportée pour les souffrances courantes, la maladie, etc. La croix que le Seigneur nous invite à porter, c'est la croix du disciple qui subit l'hostilité du monde parce qu'il est disciple. Voilà ce que c'est dans le contexte. Et si nous déplaçons en quelque sorte l'accent, c'est dangereux et nous oublions quelque chose de très, très important dans la pensée biblique. Alors voyez, cette vérité-là me freine un peu dans l'utilisation de la logique que j'ai développée dans la première partie de la réponse. Je reconnais qu'il y a complexité. J'essaie de tenir ces deux éléments ensemble.
Alors, question plaisir et souffrance dans la vie chrétienne. Alors, je répète en deux mots, est-ce que le plaisir dans la vie chrétienne ne serait que la recherche ou le fait de vivre certaines souffrances pour le Christ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions de la joie et du plaisir?
Alors, contre l'idée que notre seul plaisir serait le plaisir passablement masochiste de souffrir, j'ai essayé de parler vigoureusement vers la fin. C'était assez bref parce que je ne voulais pas allonger, mais je l'ai dit avec vigueur, pas d'ascétisme, de mortification pour la mortification, au sens que ça a pris dans une certaine tradition. Au contraire, je sais vivre dans l'abondance, je sais apprécier la bonne réputation, et je pense que Paul aurait même pu dire la bonne chair aussi, comme Jésus lui-même a su l'apprécier. Donc, je répudierais tout à fait cette façon de comprendre. Mais en même temps, je voudrais dire que je maintiens le terme de survie. Il me semble correspondre à un accent que Paul veut mettre. Et ça a l'air de nous placer dans une position inférieure par rapport au monde. Et oui, mais c'est ce que Paul dit, nous sommes les derniers, le rebut. Lisez encore 1 Corinthiens 4, le passage duquel j'ai lu quelques versets. Il faut l'accepter, cela aussi. De n'avoir l'air que de survivre à peine en tirant la langue, placé au dernier rang, banni, etc. Il faut aussi l'accepter, tout en sachant qu'il ne s'agit pas du tout de rechercher cette souffrance. Il s'agit de savoir en même temps que la vie en Christ, non seulement c'est la vie qui paraîtra, lorsque le Christ paraîtra lui-même, puisqu'elle est cachée avec le Christ en Dieu, mais qu'elle a déjà ses signes et ses arts dès le temps présent, et que nous en goûtons déjà la saveur avec la joie en même temps que ce deuil externe. J'aurais peur que si on refusait le terme de survie, donc le premier sens, on atténue la vigueur du contraste que Paul, au contraire, veut mettre en valeur.